podcast de Radio Vatican.
Paris espère décrocher l'organisation des Jeux Olympiques 2024. Emmanuel Macron va présenter le dossier de candidature de la capitale française ce mardi devant les membres du CIO, le Comité International Olympique. Un dossier soutenu par une centaine de médaillés olympiques et paralympiques et un dossier important pour la présidence française et la ville de Paris. Autre rendez-vous, les Jeux Olympiques d'hiver 2018 qui auront lieu en Corée du Sud. Il y a quelques jours, le président sud-coréen déclarait vouloir inviter la Corée du Nord à y participer afin d'aider à la paix dans la région. Deux exemples qui montrent l'importance donnée à la diplomatie sportive. Quels sont ses objectifs? Y a-t-il de réelles retombées? Nous en parlons avec Julien Sorez, maître de conférence à l'université de Picardie-Jules Verne et historien du sport.
La diplomatie sportive est ce qui fait l'un des succès des Jeux Olympiques. C'est que ça a été une manière de manifester une puissance, une notoriété dans un cadre pacifié, c'est-à-dire la rencontre sportive. Et le grand essor des compétitions internationales, c'est l'entre-deux-guerres, dès lors que l'Europe a compris que par la guerre, elle ne se renforcerait pas, mais elle s'affaiblirait suite aux conséquences de ces conflits, notamment de la Première Guerre mondiale. Donc il y a à la fois un projet diplomatique dans le sens d'une volonté de montrer sa puissance, d'augmenter sa notoriété et aussi d'utiliser un cadre pacifié qui n'est pas militaire, même si l'affrontement parfois peut laisser supposer à une guerre par d'autres moyens, mais sans la mort de masse comme celle des guerres du XXe siècle.
Alors derrière la diplomatie sportive, il n'y a pas seulement donc un intérêt diplomatique, mais aussi par exemple économique. Pour les JO 2024 par exemple, selon vous, que recherche avant tout la France avec sa candidature?
C'est la volonté à mon avis de renforcer encore un peu l'image de cette métropole, de cette grande métropole, de la rendre toujours plus attractive et en même temps de servir aussi au développement rationnel du Grand Paris. Puisque au-delà de l'image de la capitale, au-delà de l'image de la France, qui sont souvent indissociées, indissociables, il y a aussi un projet urbanistique qui permet d'ouvrir ce développement urbain vers les problèmes du XXIe siècle.
Alors, organiser un événement sportif en soi ne s'inscrit pas pour autant forcément dans une diplomatie sportive. Qu'est-ce qu'il faut en plus pour parler de véritable diplomatie du sport?
La diplomatie sportive, elle concerne deux types d'acteurs. Elle va, et c'est ce qui fait un peu la force de la candidature parisienne aujourd'hui et qui lui faisait défaut par le passé, c'est que la diplomatie, elle doit être portée d'une part par des individus qui appartiennent au monde sportif, qui ont une forte notoriété, une capacité à bien communiquer. Et c'est le cas puisque le comité d'organisation est soutenu par de nombreux sportifs olympiques, des médaillés comme Teddy Riner, etc., et présidé par Tony Estanguet, donc qui est aussi un champion olympique. Mais au-delà de cette mobilisation des sportifs et du monde sportif en général, il faut aussi que les élus, les hommes politiques, qui ne sont forcément au monde sportif, puissent prendre le relais et accompagner cette candidature. Et ce qui est intéressant dans le cas de Paris 2024, c'est qu'à toutes les échelles décisionnelles, on a un soutien, bien que la couleur politique des élus soit fort divergente, puisqu'on a donc la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui est totalement impliquée dans le projet. On a ensuite Valérie Pécresse, qui est aussi impliquée et qui est pourtant une opposante politique à l'échelle de la région. Et puis on a Emmanuel Macron, qui se situe entre ces deux pôles de la vie politique française et qui est aussi un fort soutien. Donc la stratégie, elle est à la fois de puiser dans les ressources du monde sportif, mais aussi d'obtenir le soutien intangible du monde politique.
Alors, par le passé, il y a eu des cas de boycott d'événements sportifs pour montrer à sa désapprobation. Est-ce que, selon vous, on pourrait encore voir des boycotts comme ça aujourd'hui? Je pense notamment au Qatar en 2022, la Coupe du Monde, avec la tension récente qu'il y a eu avec l'Arabie Saoudite et la rupture des relations diplomatiques.
Oui, c'est possible. L'idée étant, bien sûr, d'affaiblir la notoriété recherchée par l'organisation, par le pays organisateur. Cela étant, ce qui a sans doute été le plus efficace en termes de message contestataire, plus que le boycott qui justement ne vous permet pas de vous exprimer pleinement, c'est les JO de 68 avec les revendications contre le sort réservé aux populations afro-américaines aux États-Unis. Et là, ça me paraît un petit peu plus puissant. Donc oui, le boycott est une affaire d'État, parfois sportif, mais c'est sans doute pas là qu'est le pouvoir de contestation le plus fort.
La diplomatie sportive est assez exposée. On a vu toutes les critiques sur les conditions de travail, par exemple, des ouvriers pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, par exemple. Est-ce que vous avez d'autres exemples en tête où finalement la diplomatie sportive a fait plus de mal que de bien ?
La question qui pourrait se poser, c'est celle de Pékin. Est-ce que la Chine a subi un revers ou une image fortement négative ? J'en suis pas sûr. Il y avait eu toute une politique justement contre les droits de l'homme, la presse, etc. Et finalement, les JO se sont plutôt bien passés et la puissance médiatique et économique de l'événement semble encore capable de dépasser les critiques qui sont faites dans d'autres domaines. Et les enjeux économiques sont tellement forts qu'ils écrasent les autres enjeux idéologiques qui pourraient ternir l'image d'un pays organisateur.
Alors, la diplomatie sportive des pays est aussi dépendante de l'attribution ou non de l'organisation de grands événements. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des institutions comme, par exemple, le Comité international olympique qui tirent les ficelles, finalement, aussi de la diplomatie sportive ?
Oui, dans la mesure où ils ont un rôle extrêmement important d'attribution de l'accueil des événements sportifs et qu'ils déterminent fortement la notoriété d'un État à partir du sport. En même temps, il y a aussi, c'est-à-dire que le sport international n'est pas, ou en tout cas les institutions du sport international ne sont pas les seules à faire la pluie et le beau temps de la diplomatie sportive. Mais on le voit par exemple avec l'influence qatarie dans le football européen et français, on voit bien qu'il y a d'autres voies de la diplomatie sportive que celle de l'accueil d'un événement sportif planétaire. Vous avez par exemple le rachat d'un club comme le Paris Saint-Germain, dans une ville qui a une forte notoriété et qui va permettre de faire de la diplomatie sportive tout en ne choisissant qu'une pratique sportive, qu'une ville, mais avec un fort potentiel de rayonnement. Et là, ni la FIFA, ni le CIO, qui sont les grandes institutions sportives internationales, n'ont d'emprise sur ces stratégies-là.
Des propos recueillis par Sarah Bakaloglou.